allons faire quelque chose de spécial, c'est que nous allons élaborer le message ensemble. Hein, parce que ça nous empêchera de tout dormir. En plus, comme je ne l'ai pas préparé, bah, non, c'est pas vrai. Enfin, on va l'élaborer ensemble. Je vous propose de prendre Matthieu au chapitre 9. Matthieu au chapitre 9, des versets 35 à 38. Un passage bien connu. Matthieu au chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Voilà les quelques versets sur lesquels nous allons nous arrêter pour cet après-midi. Et comme a dit Christian, grâce au fait que j'ai un train tout à l'heure, ça ne sera pas trop long. Donc exceptionnellement, je vais faire moins de 5 heures. Alors, mais on va les faire ensemble, ce sera plus sympa. Un texte qui nous parle de la mission dans le sens d'annoncer la bonne nouvelle, de prier pour des ouvriers. Si vous prenez ce texte, après l'avoir lu ou en le lisant, là, en combien de sections on pourrait le découper? Et pourquoi? Il y a plusieurs réponses possibles, ne vous inquiétez pas. Chacun peut dire ce qu'il veut, il n'y a rien marqué. Combien de sections?
4.
Alors oui, alors les 4, ce serait quoi?
4 versets.
Ah, c'est pas mal ça. Oui, ils ont eu la même idée, hein, ceux qui ont mis les versets. Effectivement, on peut dire 4, oui. D'autres, voyez autre chose? Ouais. Vous êtes tous d'accord, hein, c'est clair.
Une seule idée,
oui. Une, quatre, une. Ouais. D'autres, vous découpez en combien de sections?
Trois.
Oui, alors, ça irait d'où à où?
Le verset 36.
Oui.
Le verset 35, pardon.
Ah, d'accord.
Donc Jésus parcourt les villages en cette
ville.
Ensuite, la deuxième section, c'est le verset 36.
Oui.
Il est ému.
Oui.
Il constate l'état de la foule. Et puis 37 et 38, eh bien, il donne à ses disciples une directive de prier pour envoyer les villages à la moisson.
D'accord. Oui, merci. Très bien, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres propositions? 15, oui, j'en doute. Chaque mot.
Après, il enseignait, il guérissait, il a vu la foule, il fut ému.
Donc toi, tu le sépares en verbe.
Oui, en verbe.
Ah, c'est bien. Ok. Moi, je suis rassuré qu'on ait dit 3, parce que moi, je l'ai coupé en 3, sinon j'aurais été mal. Mais c'est vrai, hein, on peut faire plusieurs partages. Donc, j'ai pris le même découpage que notre sœur, 35, 36, et je regroupe 37 et 38. Alors, on va prendre le verset 35, tous ensemble. Est-ce qu'il y a un mot qui vous frappe? Et lequel? Ou un mot qui se détache, on pourrait dire. Ah, village, oui. Ah, c'est pas mal. C'est bien, hein. On trouve dans l'écriture si on veut trouver, c'est bien. Mais c'est vrai, il est là, le mot.
Toutes,
toutes, oui. Alors, village, j'imagine que le mot village vous a touché par votre contexte. Le mot doute, pourquoi?
Parce que toute maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie qui existe, toute infirmité, il n'y a rien qui résiste à Jésus.
Oui.
Toutes.
Et toutes les villes, oui.
Et toutes.
Toutes les villes et villages, oui.
Il n'y a pas un endroit qui nous soit caché, mais
d'accord, merci. Effectivement, c'était le mot tout aussi qui m'a... Bon, le mot village, il m'a sauté aux yeux, principalement quand je venais ici. Je me suis dit, tiens, ce texte-là, vu qu'il y a marqué village, ça va révéler les gens. Mais le mot tout, parce qu'il se retrouve trois fois. Toutes les villes et les villages, toute maladie et toute infirmité. Et je trouve dans ce mot, tout... C'est vraiment d'abord toutes les villes et les villages, ça montre la préoccupation de Jésus, qui est une préoccupation, on peut dire, globale. Il ne va pas choisir ville ou village, il va parcourir tout l'endroit. Et l'endroit, cet endroit, cette région, c'est la Galilée. Et un historien juif nous dit que ça faisait 70 km sur 120, donc 120 de long et 70 de large, ce qui fait quand même un territoire assez étendu et plutôt peuplé. Il y avait plus de 2 millions d'habitants dans cette étendue-là. Donc vraiment, le toute ville et village, ça veut vraiment dire il n'en laisse aucune. Il a une préoccupation pour chaque personne, pour chaque ville, pour chaque village. Il ne va pas choisir, tiens, je ne vais pas dans les villages, ou tiens, je ne vais pas dans les villes, mais il va vouloir tout toucher. Et ça signifie son amour pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde pour chacun. Tout. Et effectivement, comme disait Christian aussi, toute infirmité et toute maladie, ça signifie là sa toute puissance, dans le sens où il n'y a rien qui peut lui résister. Et on a ces deux facettes de Dieu. À la fois l'amour infini, l'amour pour tout le monde, un amour qui est tellement profond et qui ne laisse personne de côté, et une puissance aussi qui est infinie. Il n'y a pas de maladie qui peut lui résister. Et lorsque, en Matthieu 28, il donne un ordre à ses disciples d'aller et de faire des nations des disciples, juste avant, il rappelle que tout pouvoir lui a été donné. Et c'est avec lui qui est à l'initiative de ce que nous faisons, de notre mission d'annoncer l'Évangile. C'est avec lui que nous allons, avec lui qui aime toute personne, toute ville, tout village, mais lui aussi qui est tout puissant. Lorsque Jésus est à la fin de son ministère et qu'il meurt sur la croix et qu'il ressuscite, encore une fois on voit ces deux aspects. Sa mort sur la croix montre son amour infini, sa résurrection montre sa puissance infinie. Et on ne peut jamais délier les deux. Et lorsqu'on parle d'annonce de l'Évangile, on annonce l'Évangile parce que Dieu aime tout le monde, alors on veut toucher même le plus petit village ou la plus grande ville, mais aussi nous savons que Dieu est tout-puissant. C'est le Dieu de l'impossible, c'est pas de nos propres forces que nous faisons les choses. Si les gens, évidemment, peuvent refuser, on sait aussi que Dieu est tout-puissant et il est avec nous. Les villes et tous les villages, toute maladie et toute infirmité. Alors, ensuite, dans ce passage, on va essayer de voir les verbes. Verbes qui sont composés ou verbes qui finissent en « les participes ». Alors, oui. Proclamer, j'ai entendu, oui. Alors, parcourir, enseigner, prêcher et guérir. Donc, parcourir, ça, c'est-à-dire que ils parcourent, quoi. Donc, en plus, ils allaient à pied à cette époque. Donc, ça signifie une action d'aller. D'accord ? Il va vers les gens. Il va à la rencontre des gens. C'est lui qui parcourt. Et c'est important pour nous aussi, pas de rester enfermé chez nous, mais d'aller vers les gens. On va parcourir, c'est le verbe d'aller. Parcourir. Et c'est intéressant et on peut réfléchir à l'effort que ça lui demandait de parcourir toute cette étendue à pied, puisqu'à l'époque c'était à pied. L'annonce de l'évangile, c'est une action. Aller. C'est une action parcourir, c'est une action d'aller là où sont les gens. Et quand on observe tout le ministère de Jésus, on observe quelque chose, c'est qu'il va là où sont les gens. Et par exemple, les gens à cette époque étaient souvent dans les synagogues. Et c'est là qu'il enseigne. Les synagogues, on ne peut pas faire le parallèle aujourd'hui. L'église, ce n'est pas comme la synagogue à l'époque, parce que la synagogue à l'époque, c'était dans la ville ou le village, et c'était comme un centre communautaire où les gens passaient et où des personnes pouvaient enseigner. Et tout le monde était religieux, donc c'est vraiment un centre où les gens sont. Jésus aurait pu enseigner ailleurs que la synagogue, mais non seulement il était juif et il respectait la culture, mais en plus, il va là où sont les gens. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette synagogue? Le deuxième verbe, c'est enseigner. Et on a parfois des zooms sur la vie de Jésus pour voir ce qu'il enseigne. Et ce qu'il enseignait, c'est qu'il reprenait les prophéties, par exemple les prophéties d'Ésaïe, et il montrait que lui, il accomplissait cette prophétie. Ou parfois, il reprenait les pharisiens en disant, c'est pas... Vous appliquez la loi comme ça, mais ça ne doit pas être comme ça. Et nous avons aussi un rôle, tout le monde, hein, d'enseignement, dans le sens où les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas forcément l'évangile, on va enseigner. Et puis, dans cet enseignement, il y a aussi une idée de correction. À son époque, les gens comprenaient mal la loi, comprenaient mal les prophéties, et donc Jésus, lorsqu'il enseigne, eh ben, il corrige les choses en disant non, c'est pas comme ça, c'est ainsi. Et quand nous sommes face aux gens, parfois, il y a des objections, il y a des incompréhensions, et on a un travail de correction. On parle de ce qu'ils savent, on dit non, c'est pas exactement ça, mais c'est comme ça. Enseigner. Prêcher. Prêcher la bonne nouvelle. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a le mot enseigner et après le mot prêcher. On pourrait dire que c'est un peu la même chose. Mais il y a une insistance sur ce prêcher la bonne nouvelle. Prêcher, c'est un peu dans le sens où là, il parle et là, ce sont les gens qui écoutent. La bonne nouvelle aussi doit être prêchée. C'est qu'on doit parler, on doit ouvrir nos bouches et on ne doit pas oublier que c'est une bonne nouvelle. Parce que parfois, quand on annonce l'évangile ou qu'on veut y aller, alors des fois on a peur, on est stressé, on ne sait pas. Puis au fond, on a les gens autour de nous, ils peuvent pas toujours comprendre que c'est une bonne nouvelle. Je me souviens un jour, j'étais abordé dans la rue par deux témoins de Jéhovah, et c'était des jeunes. Et puis alors, j'imagine que le premier d'entre eux, c'était la première fois qu'il sortait dans la rue, il avait l'air un peu stressé, donc. Et puis il me dit, ah, il y a une magnifique nouvelle dans la Bible, je vais vous montrer. Et puis il commence à ouvrir sa Bible et il était stressé et il n'arrivait pas à trouver. Et il dit, désolé, je ne trouve pas. Et je dis, ah. Et moi en face, bon, j'avais un peu compassion de lui, et il dit désolé et puis il part. Et je me dis, c'est fou parce qu'il vient de me dire qu'il y a une bonne nouvelle et il n'arrive pas à trouver. Et la seule chose qu'il m'a montré, c'est son stress. Il était en sueur, alors je ne sais pas s'il était supervisé par l'autre personne, mais le pauvre, quoi. Et nous, on ne va pas seulement parler des témoins de Jéhovah, on va parler de nous maintenant. Comment est-ce qu'on annonce comme une bonne nouvelle? Déjà, est-ce qu'on est conscient que c'est une nouvelle extraordinaire? Des fois, il faut qu'on se remémore l'évangile. L'évangile, nous étions pécheurs, nous étions condamnés, nous étions morts sur le plan spirituel, et Jésus meurt pour nous et il nous rend vivants. Et c'est un message de résurrection éternelle. Et c'est une espérance éternelle. Et il prêche cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous avons à annoncer. Et c'est une bonne nouvelle que les gens doivent entendre. Et il faut aussi que ça transparaisse comme une bonne nouvelle. Et puis il nous est dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et là aussi, c'est une action, non seulement un Dieu qui prend en compte le côté spirituel des personnes, mais aussi le côté tout simplement physique. Ça ne veut pas dire que tous les malades étaient guéris, mais ça veut dire qu'il pouvait guérir toute maladie. Et on voit pas que tous les malades du temps de Jésus ont été guéris. Il n'a pas pu, il était dans la... Non pas qu'il n'a pas pu, qu'il ne pouvait pas, mais ici, on voit des exemples de personnes qui sont guéries, et Jésus avait le pouvoir de le faire. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus s'occupait donc du côté spirituel, mais aussi du côté physique. Et nous aussi, dans notre annonce de l'Évangile, dans les problématiques que nous rencontrons, il ne faut pas que nous soyons juste connus pour prêcher l'Évangile dans le sens... quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie des gens, la vie sociale, les problèmes moraux, les problèmes de famille. L'Évangile, c'est quelque chose qui est global et nous avons à agir globalement sur les personnes. Voilà, on va prendre maintenant la deuxième section. Alors, dans cette deuxième section, quels sont les mots qui vous parlent ? La compassion, oui.
Le fait de voir les foules d'abord.
Voir, effectivement. Oui. D'accord, bah merci. C'est vrai que c'est pas facile ce que je vous demande, on pourrait dire tous les mots là. On peut dire brebis, berger, je m'attendais à ce que vous dites ça, hein, dans le contexte ici. Languissante et abattue. Alors, le premier mot, et c'est vrai, c'est le mot voyant la foule. Et c'est intéressant de voir qu'il voit la foule, mais il voit un peu plus loin. Il voit une foule qui est languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. J'ai dit ce matin, avoir le cœur ouvert, avoir les oreilles ouvertes, avoir la bouche ouverte, on va rajouter quelque chose, avoir les yeux ouverts. Cœur ouvert, yeux ouverts, oreilles ouvertes, bouche ouverte, pour être complet. Et là, on voit que Jésus a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts, évidemment, il voit la foule. Mais peut-être que tout le monde aurait vu la foule. Mais ce qui montre qu'il a les yeux ouverts, c'est ce qu'il arrive à voir derrière cette foule. C'est-à-dire qu'il arrive à voir qu'elle est languissante, qu'elle est abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est ça qui est important de voir. Parce qu'on peut voir sans voir. C'est-à-dire... on peut s'arrêter à des éléments périphériques. Par exemple, peut-être, je ne sais pas si certains d'entre nous n'aiment pas trop la ville, peut-être qu'il y en a. La grande ville, hein, je parle Paris, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Paris. Donc, les gens qui n'aiment pas les très grandes villes, ils vont dire là-bas, il y a la pollution, il y a le bruit, il y a les métros bondés. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Et puis d'autres, ils n'aiment pas la campagne. Donc, ils vont dire là-bas, il n'y a personne. Là-bas, il y a du fumier. Là-bas, enfin bref, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on voit ? C'est ça. Et Jésus, là, il voit une foule, mais il voit autre chose. il voit une foule où il y a des gens qui sont languissants et abattus. Il voit des gens qui cherchent un sens à la vie, qui sont abattus. Il voit ça. L'autre fois, j'étais avec un homme d'affaires qui disait, bon, lui, il est chrétien. Il dit, le problème, c'est que des fois, on pense que les hommes d'affaires, bon, lui, il est chrétien, mais on pense que parce qu'ils ont de l'argent ou qu'ils ont des villas et tout ça, eh ben, ça va, ils n'ont pas de problème, ça va dans la vie. Il dit, ben, pour moi qui suis dans le milieu, c'est exactement l'inverse. Et même les hommes d'affaires chrétiens, il dit, on a une vie très difficile avec tout ce qu'il y a à gérer. Donc, c'est toujours qu'est-ce qu'on voit qui est important. Est-ce qu'on arrive à voir au-delà de l'apparence? Est-ce qu'on arrive à voir les gens, déjà? Je vous dis, hein, par exemple, il y en a, s'ils vont parler de la campagne, ils vont dire, ben, j'aime bien de temps en temps aller à la campagne, il y a la nature, il y a l'air frais, c'est vrai. Mais si on est chrétien, on doit à la fois voir ça, mais on doit voir aussi les gens qui vivent ici. Et dire, il y a des gens qui sont languissants et abattus. Parce que la foule n'a pas changé, qu'ils soient en ville ou... D'ailleurs, il est en train de parcourir des villes et des villages, et c'est la même chose. Il y a des gens qui sont languissants et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et puis il y a ce verbe, enfin ce mot très important qui a été souligné, il fut ému de compassion. Donc quand il voit, automatiquement, il est ému de compassion parce qu'il voit plus loin que l'apparence. Ému de compassion. C'est intéressant, cette petite phrase revient souvent dans le Nouveau Testament, quand Jésus voit les gens, être ému de compassion. Alors, en grec, j'ai un peu consulté, hein, je ne fais pas de grec, mais ému de compassion, c'est le verbe splagnizomai. Splagnizomai. Splagnizomai, ça veut dire, ça vient de la racine splagna, c'est les entrailles. Et splagnizomai, ça veut dire remuer dans l'intestin. Splagnizomai, avec un Z-O-M-A-I à la fin. Donc, on peut dire, Jésus, il a été splagnizomé. Si on veut vraiment être juste, hein, si on veut la traduction exacte. Donc, Jésus voit la foule et il est splagnizomé. Ça veut dire que quand il voit la foule, ça se passe ici, il commence à voir mal, tellement il est ému. Il y a un amour et une pitié qui est fort. Ça devient physique. Vous voyez ? Comme parfois, des fois, on est face à des situations comme ça, et ça nous touche même physiquement de voir notre souffrance morale. Donc, Jésus ici est splagnizomé. Marie-Noël, elle m'a partagé hier, elle était en train de... Elle conseillait quelqu'un, qui, elle disait, c'est marrant, parce que quand il lui parlait, ça lui faisait mal tellement la personne était en souffrance. Donc, on peut dire, Marie-Noël a été splagnizomé. Voilà. Donc, Jésus, il voit la foule et il est splagnizomé. C'est fort, ce qui se passe là. C'est qu'il ne voit pas une foule juste comme ça, où il se dit, il y a trop de bruit là-bas. Mais il voit une foule, et c'est juste en la voyant. Il voit une foule languissante et abattue. Et il est, on peut dire splagné, ce sera plus simple, si on prend la racine, on va dire. Il est splagné. Mais retenez ce mot, j'aimerais bien qu'on retienne ce mot, parce que quand vous allez relire, vous allez dire, il y a quelque chose de très profond. Le splagna, le splagnizomai, voilà, ça fera bien, vous direz, je parle grec. Et puis ça, c'est un mot sympa. Ému de compassion. Et on peut se poser la question aujourd'hui, quand on voit les gens, est-ce qu'on arrive à voir que ce sont des gens qui sont abattus, languissants? Mais la compassion, au sens biblique du terme, ça ne s'arrête jamais à la pitié. La différence entre la pitié et la compassion, c'est que la compassion, il y a toujours une action. C'est-à-dire, on peut pleurer et tout, on peut dire, ah, les gens, ils sont... Et puis, après, de rien faire. Hein? Moi, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un. Il regarde la télé, il voit un pays en guerre, et puis il dit: oui, Seigneur, je te prie vraiment pour ces gens, je te prie de m'envoyer, je te prie de. Et puis après, il est resté devant sa télé. Voilà, ça c'est la pitié. C'est-à-dire, on pleure et puis on reste là. Mais la compassion, c'est toujours une action. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas eu pitié de nous, il a eu aussi pitié de nous, ça fait partie de la compassion. Mais il a eu compassion, ça l'a poussé à l'action. Et quelle action? Quelle action? Alors il dit à ses disciples, nous sommes maintenant dans la section 37, verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, qu'est-ce qui vous intrigue dans cette troisième partie? Qu'est-ce qui peut nous intriguer? Est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce qu'il y a des choses qui intriguent? Qu'est-ce que... Jésus qui a besoin de ses disciples, oui. Jésus qui n'envoie pas ses disciples et qui leur demande de prier. C'est intriguant. Oui.
Moisson grande, ouvrier.
Voilà, un contraste. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc les deux mots en contraste. Oui. Effectivement, je crois qu'on a souligné l'essentiel. D'abord, Jésus qui dit la moisson est grande. La moisson, on moissonne quand vous connaissez ça mieux que moi. Hein. Voilà, on moissonne. Hein. J'ai peur de dire n'importe quoi. J'imagine on moissonne pas au début, c'est à la fin. Hein. Voilà, je vais pas prendre plus de risques que ça. Il dit la moisson est grande. Ça veut dire que, bon, il a vu les brebis qui sont languissantes et abattues, et maintenant il voit une moisson. Ça veut dire que Jésus, il voit loin, quoi. Et il voit avec beaucoup d'espoir. Vous savez, des fois, quand on annonce l'évangile, on est un peu découragé. On ne dit pas souvent la moisson est grande, ouais. On est un peu découragé, on dit on a semé, ça, on ne récolte pas. Non. En tout cas, Jésus, lui, il voit quelque chose d'inverse. Il ne voit pas que le problème, c'est la moisson. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas les gens en face, mais c'est le manque d'ouvriers. Ah, ça change, parce que là, le problème, ça devient plutôt chez nous. C'est le manque d'ouvriers le problème. Alors, la question c'est, mais qui sont ces ouvriers? Alors, à qui il s'adresse? Il s'adresse à ses disciples. Et après, il leur demande de prier, d'envoyer des ouvriers. Et après, nous sommes au chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tiens, ça commence à ressembler. Et après, il les envoie. Les ouvriers, ce sont les disciples eux-mêmes. C'est-à-dire, les ouvriers, c'est pas, des fois on comprend ça mal, c'est pas uniquement les pasteurs, les évangélistes ou je sais pas, les missionnaires. Les ouvriers, ce sont les disciples en tant que tels. Ceux qui entendent ce message du fait qu'il y a une moisson grande. Nous sommes tous, là où nous sommes placés, des ouvriers en puissance. En puissance parce que pour être ouvrier, il faut se mettre à l'action. Un ouvrier, il travaille. Sinon, on ne peut pas le qualifier d'ouvrier en tant que tel. Il y a une action, ce n'est pas juste un travail où il réfléchit toute la journée. Non, il y a une action. Donc, Jésus, en fait, il dit, il y a une moisson qui est là, mais il y en a trop peu qui se mettent au travail. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par prier. Mais on va prier en ayant le cœur ouvert. C'est-à-dire on va prier tout en sachant que nous pouvons être la réponse à nos prières, puisque c'est ça qui va se passer. On prie en étant impliqué. On prie en ayant la compassion. On prie en étant convaincu que nous pouvons être la réponse à nos prières. Et ensuite, j'aimerais dire, ça peut se passer de différentes manières. Je vous ai dit tout à l'heure que bon, j'avais rencontré quelques hommes d'affaires pour parler avec eux et ils me parlaient de la mission. Et j'étais impressionné par l'un d'entre eux qui m'avait dit qu'il était conscient du rôle que Dieu lui avait donné dans cette moisson, dans cette mission. Il disait que lui, ça ne lui dit pas trop, il a vraiment peur d'aller toujours annoncer l'évangile, il le fait, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'il fait très naturellement. Et il disait, alors qu'il soutient les missions, ça ne lui disait pas, absolument pas d'aller à l'étranger, mais par contre, il dit, il aimait bien quelque chose, c'est gagner de l'argent. Bon, dit comme ça, ça peut faire peur. Mais il continue, j'aime bien gagner de l'argent pour soutenir le royaume de Dieu. Et vraiment, il était convaincu de ça, et c'est ce qu'il fait. Il a augmenté ses revenus année après année, et puis maintenant, bon, il est multimillionnaire. Mais il a dit, il n'a pas changé de niveau de vie, il a tout, toujours tout donné, de plus en plus. Et il dit, je suis convaincu que je suis ouvrier à ma place dans ce champ-là. Et ça, c'est important. Christian disait que je travaille aussi avec une mission en Inde. Tiens, je vais en parler tout de suite. Donc, cette mission, c'est une mission qui a une autre manière de faire au niveau de la mission, c'est qu'elle n'envoie personne en Inde, dans le nord de l'Inde. Et dans le nord de l'Inde, c'est là où il y a le plus de personnes qui n'ont pas entendu parler de l'évangile. Donc il y a des millions et des millions de personnes qui attendent encore la bonne nouvelle. Mais la mission en tant que telle, elle n'envoie pas, mais elle prend des gens de ces villages là-bas, des Indiens, qu'elle soutient. Alors, c'est pas simplement financier, mais c'est qu'elle équipe. Donc ce qui fait qu'il y a des voyages à court terme qui sont organisés, de 10 jours, de 15 jours, où on va à la rencontre de ces Indiens qui sont dans les villages du nord de l'Inde et qui font un travail magnifique. Beaucoup sont bon, pauvres, nécessiteux, analphabètes, parce que c'est un peu le contexte de ces villages-là, mais c'est eux qui sont les plus à même d'atteindre leur village. Et donc, la mission qui a commencé en 1998 a pour objectif d'implanter 100 000 églises dans le nord de l'Inde. Alors ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup, mais sachant qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions de personnes dans le nord de l'Inde, c'est pas si énorme que ça. Et puis il y a un processus de multiplication extraordinaire qui fait que en 98 ça a commencé avec 5 implanteurs, et puis aujourd'hui il y a déjà 7000 églises, je crois, d'implantées. Parce que quand on en implante une, on forme aussi des implanteurs là-dedans, et ça se multiplie de cette manière. Voilà, je me demandais pourquoi je racontais ça. Alors cette mission, quand elle a commencé, ça a commencé parce qu'il y avait un homme d'affaires, justement, qui était indien, mais du sud de l'Inde. L'Inde, c'est comme l'Europe, hein, c'est aussi diversifié. Donc lui, il est du sud et il voit ce besoin dans le nord où des gens n'ont pas entendu parler de l'évangile. Et il arrête son travail et puis il commence à mettre en place sa mission qui s'appelle En Partie. Et quand il commence pas avec pas grand chose et pas beaucoup de monde. Et à cette époque, il y avait un jeune qui avait 16 ans, qui était fort en informatique. Donc c'était le fils d'un de ses collègues chrétiens. Et lui demande de lui amener quelques ordinateurs pour commencer. Et il a commencé comme ça à 16 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui s'occupe de l'informatique, et c'est devenu plutôt plus compliqué qu'au début. C'est-à-dire il y a tout un système à gérer, en plus on est sur des lieux où il y a la persécution, alors il faut protéger les données, enfin c'est assez compliqué. Mais ce jeune qui n'est plus, enfin s'il est toujours jeune, enfin ça dépend quand même. Il a grandi avec la mission, il a grandi en compétences, et on dit toujours qu'il aurait pu faire beaucoup d'autres choses à son âge. Un jeune qui est fort à l'informatique, il s'amuse, je ne sais pas, il fait des jeux, mais il s'est investi dans cette mission-là, à sa place-là, et au niveau informatique. Et c'est comme ça qu'il est ouvrier. Alors si je dis ça, c'est pour dire que qu'on soit homme d'affaires, informaticien, ouvrier, la mission, elle a besoin de tout le monde et de toutes les compétences. Et l'ouvrier, c'est celui qui utilise ce qu'il a, les compétences et ce qu'il est, pour cette mission. Et hélas, il y en a trop peu qui s'engagent, d'après ce que nous dit Jésus. Il y a trop peu d'ouvriers. Alors la première des choses, c'est de pouvoir prier pour que Dieu envoie des ouvriers ici dans le département des Vosges et d'être prêt à être la réponse à notre prière. Voilà, résumons un peu. Je ne vais pas faire plus long parce que je veux juste qu'on soit au point et qu'on retienne l'essentiel. La première des choses, c'est que Jésus parcourt toutes les villes et les villages. Et il a le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a un amour infini et pour tout le monde. Et il a une puissance infinie. Et c'est avec lui que nous partons en mission et que nous annonçons l'évangile. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est le verbe splagné. Splagnizomai. Pour nous dire que lorsqu'on voit les gens, il faut qu'on regarde au-delà de ces gens-là et de leur apparence, et que ça puisse nous prendre au trip, parce qu'on va voir des gens qui sont languissants et abattus. Le moteur de l'évangélisation, c'est cette compassion. Sans compassion, pas d'évangélisation ou pas de réelle évangélisation. L'apôtre Paul dit il aurait pu prophétiser, parler en langue, déplacer de montagne, avoir la foi, mais s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Le moteur, c'est ce splagna, le splagnizomai. Retenez bien. Et la troisième des choses, c'est de prier en ayant le cœur ouvert pour être la réponse à sa prière. Et c'est de se rappeler qu'être ouvrier avec Jésus, ça ne veut pas forcément dire se mettre à ma place et prêcher, mais que chacun puisse utiliser ses compétences, son histoire, ses talents que Dieu lui a donnés, pour remplir, pour avoir une part, pour contribuer à l'annonce de l'Évangile en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun est appelé spécifiquement parce que Dieu nous a créés spécifiquement et avec des talents spécifiques. Et c'est ce qui est beau, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et comme il y en avait peu qui répondent à ça, Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Qu'on puisse vraiment prier que Dieu envoie des ouvriers et qu'on soit des ouvriers dans cette mission. Amen. J'aimerais juste qu'on prenne un peu de silence, une minute, pour juste se rappeler de ce que Dieu vient de nous dire. Et puis je vais conclure par la prière. Oui Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu, tu as parcouru lorsque tu as vécu les villes, les villages, tu as montré que tu aimais chaque personne. Et nous te prions que tu nous donnes cet amour et cette conscience que tu es aussi le Dieu qui a toute autorité. Nous te prions aussi vraiment que tu nous donnes cette compassion, ce splagna comme je l'ai dit, que vraiment nous puissions voir au-delà des foules, que nous puissions voir ces brebis sans berger, qu'on puisse voir au-delà d'une personne, au-delà de ses apparences, pour voir quelqu'un qui a besoin de te rencontrer, qui a besoin de toi, qui est languissant, qui n'a pas de sens à sa vie. Et nous te prions aussi que tu envoies des ouvriers dans ta moisson, que tu envoies des ouvriers dans ce département, que vraiment, Seigneur, nous soyons aussi ouverts à ce que tu nous utilises pour contribuer à l'annonce de l'Évangile. Amen.